la parole à Stéphane qui va nous parler d'histoire des mathématiques.
Donc je n'ai pas de titre plus précis que cela, parce que je n'ai pas... Au moment où on m'a demandé d'intervenir, je ne sais pas vraiment de quoi j'allais parler, j'ai décidé très tardivement. Et donc le cœur de ce petit cours seront deux extraits, l'un de Cauchy et l'autre de Dedekind, qui illustrent deux étapes très importantes de l'histoire des mathématiques. Donc l'une, c'est l'apparition effective de l'usage des quantificateurs, la nécessité de vraiment maîtriser l'usage des quantificateurs, quel que soit il existe, qui maintenant font partie vraiment de l'usage commun de tous les mathématiciens. On pourrait se demander comment les gens faisaient auparavant. Or, il y a 200 ans, donc, personne n'utilisait les quantificateurs de la manière dont on les utilise aujourd'hui. Et puis l'autre qui concerne la création de concepts abstraits. Donc là aussi, aujourd'hui, vous savez très bien que j'en ai en tout cas bien placé pour savoir que la plupart des cours de mathématiques commencent par un certain nombre de définitions de concepts abstraits qui après donc sont étudiés à l'aide de théorèmes successifs, sont précisés à l'aide de théorèmes successifs. Et ça aussi, personne ne le faisait il y a 150-200 ans. La première fois qu'on assiste vraiment comme ça à la création de concepts abstraits ex nihilo sont donc des textes de Dedekind, du cours du 19e siècle. Alors là, vous voyez, je m'attrape déjà à dire les premiers, la première fois, etc. Et pendant que j'ai préparé mon cours, il s'agissait justement d'une chose contre laquelle je voulais vous mettre en garde. Donc ne cherchez pas toujours à savoir qui était le premier à faire ceci, qui était le premier à faire cela. C'est très dangereux d'abord. Alors c'est peut-être une très bonne idée pour commencer à chercher, mais par contre, il ne faut surtout pas croire qu'on va trouver la réponse. Parce que voilà, quand on cherche à savoir qui était le premier à faire ceci, qui était le premier à faire cela, bien donc on fait juste la première étape, ce qu'on appelle techniquement une régression à l'infini, parce que dès que vous avez découvert que quelqu'un a fait quelque chose d'important dans la direction qui vous intéresse, et bien vous rendez compte que cette personne elle-même donc a travaillé sous l'influence de quelqu'un d'autre, et puis après donc vous retournez comme ça une étape en arrière dans le temps, et ainsi de suite. On peut penser que voilà, on n'est pas sûr que ça s'arrête quelque part. Donc voilà, donc je vais essayer d'éviter de dire à nouveau que les Dedekind étaient les premiers à faire cela. Que Cauchy était le premier à faire cela, mais n'empêche qu'il est difficile de s'empêcher donc de réfléchir ainsi. Donc avant de parler de ces deux sujets qui me tiennent à cœur, que je crois importants, je les ai choisis parce que je les crois importants, je voulais parler un petit peu de manière générale de l'histoire des mathématiques. Donc, c'est un sujet qui est de plus en plus présent dans les études. En fait, il faut savoir qu'il y a... Que quand je suis arrivé à Besançon, donc il y a 15 ans, il n'y avait qu'une seule unité où apparaissaient donc des concepts historiques. Cette unité donc qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle l'épistémologie mathématique, mais c'était vraiment exceptionnel. Donc, entre-temps, il y a maintenant donc, au moins un étudiant chez nous, au moins donc, trois possibilités pour se cultiver l'histoire des mathématiques, là où auparavant il n'y en avait qu'une, sachant que donc, ces trois possibilités sont chacune des options. Donc si vous voulez échapper à l'histoire des mathématiques, c'est tout à fait possible.
Donc, pourquoi s'intéresser à l'histoire des mathématiques ?
Qu'est-ce qu'on peut en retirer ? Donc on peut... J'ai voulu donc, comme ça, donc défendre l'histoire des mathématiques à trois niveaux. Donc d'abord à un niveau personnel, puis après au niveau du futur enseignant, parce que je présume que beaucoup d'entre vous donc, sont de futurs enseignants. Et en troisième lieu, donc au niveau de la recherche mathématique. Donc, moi, ce que je trouve intéressant à un niveau personnel dans l'histoire des mathématiques, c'est que c'est vraiment le moyen le plus direct de se rendre compte de ce qui est nécessaire et de ce qui est contingent, c'est-à-dire un peu dû au hasard dans les mathématiques. Donc on n'a pas. Donc c'est peut-être le meilleur moyen de s'intéresser à la question pourquoi les mathématiques sont telles qu'elles sont. Qu'est-ce qu'il y a de nécessaire dans l'évolution des mathématiques? Qu'est-ce qui fait que c'est tout à fait naturel que nous nous intéressons à certaines questions, que nous avons élaboré certains concepts? Et qu'est-ce qui, au contraire, est contingent, c'est-à-dire aurait aussi très bien pu ne pas être le cas. Donc le meilleur moyen de savoir, c'est de regarder dans le passé, de regarder donc comment ces concepts se sont élaborés. Donc c'est peut-être comme ça que moi-même j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire des mathématiques. Après, donc, en ce qui concerne les futurs enseignants, ce qui est peut-être donc le premier mérite de l'histoire des mathématiques, c'est de se rendre compte que tous les concepts que nous utilisons sont issus d'une histoire très très longue. Et en fait, si on la regarde d'une manière synthétique, si on regarde ça vraiment sur la vingtaine ou sur la trentaine de siècles dont nous avons des traces écrites, c'est une histoire douloureuse. Les concepts sont nés dans la douleur et ce que parfois ce qu'on enseigne même dès le cours préparatoire, ce qu'on enseigne tout au cours donc des années d'école, de la 6e à la 25e année de notre vie, donc sont un raccourci de tous ces siècles d'histoire. Tout ce qui a été élaboré au cours de ces siècles donc se retrouve finalement condensé en très peu d'heures de cours. Et quand on en est conscient, quand on a quelques notions d'histoire des mathématiques, qu'on se rend compte combien d'êtres humains se sont cassés la tête à élaborer ces concepts, on a peut-être donc plus d'empathie avec les élèves, avec les étudiants, et on comprend peut-être davantage pourquoi ils ont eux-mêmes de la difficulté à comprendre ces concepts que vous enseignez. Donc c'est... Voilà, et puis peut-être que l'autre intérêt beaucoup plus pratique, c'est que ça agrémente le cours. C'est toujours quand on parle de l'histoire, et peut-être que j'espère que ce que je vais dire s'applique aussi à mon cours que je donne ici. Donc quand on donne des éléments d'histoire, on est en train de faire une pause dans la description d'une théorie. Donc on est en train d'abord raconter une fiction, parce que l'histoire. Ne croyez pas que tout ce que j'ai raconté a eu lieu réellement, je suis en train de le raconter, je crée une fiction qui permet d'avoir une idée de ce qui a eu lieu réellement, mais en tout cas, donc, cette fiction que j'élabore, elle peut raviver les esprits, elle peut raviver un petit peu d'attention auprès de vos étudiants, et ce n'est pas garder les mérites de l'histoire des mathématiques. Alors, quel est l'intérêt pour le chercheur, pour une personne qui veut se former à la recherche, par la recherche, c'est que peut-être que certains d'entre vous en sont donc le savent déjà, je crois que certains d'entre vous sont déjà en train de préparer leur doctorat. Donc quand on fait de la recherche, en fait on s'intéresse à des questions très particulières. C'est un petit peu le prix à payer pour pouvoir donc faire sa petite contribution aux mathématiques, à la recherche mathématique, on est obligé de se concentrer sur des parties minuscules des mathématiques pour espérer donc forcer la frontière entre le connu et l'inconnu et puis donc découvrir des choses nouvelles. Donc si on a comme ça donc parallèlement un intérêt pour l'histoire des mathématiques, on peut comme ça donc replacer ce minuscule territoire sur lequel on travaille donc dans un cadre plus grand. Et peut-être aussi comprendre qu'est-ce qui a fait donc dans l'histoire qu'on s'intéresse à ces questions-là. Alors on peut très bien faire de la recherche mathématique sans savoir tout cela et être juste passionné par ce qu'on fait. Il n'y a aucune nécessité à cela, mais je trouve que que c'est quand même important, personnellement je trouve qu'il est quand même important de réussir à remettre sa propre recherche très particulière, moi pour moi je trouve que c'est très important de mettre ma propre recherche mathématique dans un cadre plus général, de comprendre comment elle s'inscrit dans une histoire un petit peu plus longue que celle que je connais du fait d'avoir suivi des cours de mathématiques. Alors, je vois donc sur mon petit pense-bête une chose à laquelle je tiens tout particulièrement et qui devient un réflexe tout à fait naturel quand on se plonge dans l'histoire des mathématiques, qui est vraiment celle de la vérité. Donc nous mathématiciens, nous avons toujours, nous sommes tous imbus de nous-mêmes parce que il nous arrive fréquemment d'écrire au tableau théorème et puis après donner un énoncé et puis de penser qu'il est tout simplement vrai. Et donc nous avons cette habitude donc de penser que nous savons distinguer le vrai du faux. Et dans beaucoup d'autres sciences, les choses sont beaucoup moins claires qu'en mathématiques. Alors, quand on fait l'histoire des mathématiques, on se confronte à des discours, d'il y a 2500 ans, d'il y a 2000 ans, d'il y a 1500 ans, d'il y a 300 ans. Et tout à l'heure, vous avez l'impression d'avoir des discours qui ont 170 et 140 ans. Et là, en particulier, le premier exemple que j'ai choisi, nous allons lire un extrait qui est tel qu'il est écrit, il est faux. Alors, encore mieux que ça, l'auteur, Cauchy, va même admettre que l'énoncé qu'il a écrit est faux. Donc là, on est vraiment complètement dans le faux. Et néanmoins, ce que je vais essayer de faire ressortir avec vous, c'est la vérité du texte. C'est que même dans ce faux-là, il y a du vrai. Et donc, ce qu'enseigne aussi l'histoire des mathématiques, c'est que la vérité n'est pas une notion absolue. C'est que la vérité, pour qu'elle ait lieu, il faut un accord entre la personne qui parle et la personne qui écoute. Et donc, dans l'histoire des mathématiques, la personne qui parle, c'est le texte qui a 2000 ans, qui a 1500 ans, qui a 300 ans, qui a 150 ans. Et la personne qui écoute, c'est le lecteur. Et ça demande donc un grand investissement de réussir à, accepter que la vérité est relative, que la vérité consiste d'abord à une entente, à une compréhension mutuelle entre la personne qui parle et la personne qui écoute. C'est-à-dire qu'en mathématiques aussi, la vérité est relative à cela, est relative au dialogue qui est tenu entre une personne et une autre.
Et ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a un traducteur, c'est ça, qu'on ne peut pas dire et énoncer les choses parfaitement, et donc quand vous parlez d'entente entre le lecteur et celui qui écoute et celui qui parle, vous êtes en train de dire que, en gros, avec la parole, on ne peut pas donner une vérité parfaite, et donc il y a un code sous-entendu que les deux connaissent pour traduire, ou c'est quelque chose que vous voulez dire?
Alors, ce que je veux dire, c'est que vous voyez le mot qui est important, ce que vous dites, c'est parfaite. Qu'est-ce que ça voudrait dire, une vérité parfaite? Eh bien, ce que je suis en train de dire, c'est que la vérité parfaite, en tant que telle, elle est un peu imaginaire. C'est-à-dire qu'une vérité parfaite serait une vérité qui existerait même en l'absence d'êtres humains. Parce que nous, chacun de nous est faillible. Et donc ce que je dis simplement, c'est que l'histoire des mathématiques nous enseigne que cette vérité parfaite-là, c'est vraiment une fiction. Et donc comment, Et je dis donc que la vérité, qu'on accède à la vérité vraiment si on, pour utiliser un mot que vous utilisez, si on est prêt à traduire les mots de celui qui a écrit il y a 200 ans, 300 ans, dans le langage d'aujourd'hui, et de réussir donc à recréer les concepts qui avaient cours il y a 200, 300 ans. Et donc, effectivement, il y a une idée de décodage, il y a aussi une idée donc, d'essayer de mettre en suspens les réflexes qu'on a, les réflexes qu'on a appris dans sa propre formation intellectuelle pour accéder directement.
Toute compréhension est datée, tu veux dire. Les mêmes résultats n'est pas compris de la même manière au 19e, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est ça. Mais même les mots ne veulent plus dire la même chose.
Voilà.
Alors encore. Donc encore deux choses qui me paraissent très importantes, deux avertissements que je vous lance si vous voulez approfondir vos connaissances en histoire des mathématiques. Donc le premier avertissement, c'est d'éviter de vous focaliser sur les noms de théorèmes et sur les dates. Parce que comme je le disais déjà tout au début, en général, tout cela est plus ou moins faux. C'est-à-dire que les dates en général sont fausses parce que le résultat est déjà connu auparavant, ou parce que le résultat auquel on attribue une date, parce qu'on le retrouve dans un écrit qui est daté, eh bien ne consiste qu'en une reformulation sans aucun apport nouveau, ou presque sans apport nouveau d'un résultat plus ancien. Et puis après, donc, vous avez déjà entendu cette blague que si un théorème porte le nom de quelqu'un, c'est qu'à coup sûr, il ne lui est pas dû. Parce que, comme vous le savez, le théorème de Pythagore n'est pas dû à Pythagore, on est certain que le théorème de Pythagore n'est pas dû à Pythagore, on est certain que le théorème de Thalès n'est pas dû à Thalès, et ainsi de suite. Voilà. Vous prenez n'importe quel théorème et vous voulez vraiment savoir si c'est vrai ou si c'est faux, vous cherchez un petit peu et vous découvrez très rapidement que telle ou telle personne a, pour telle ou telle raison, donné tel ou tel nom à tel ou tel théorème. C'est simplement cela. Et puis après, donc, l'autre chose qui consiste simplement à redire, en d'autres termes, ce que je disais sur la vérité il y a quelques instants, c'est que justement, en histoire des mathématiques, et spécialement si ce sont des mathématiciens qui font l'histoire des mathématiques, il est très important de se prémunir contre un regard rétrospectif sur l'histoire des mathématiques, c'est-à-dire de juger les mathématiques passées à l'aune des mathématiques présentes, et de rechercher dans les mathématiques passées quelque chose qu'on connaît des mathématiques présentes. Donc quand je parlais de la vérité qui se dégage qui résulte d'un dialogue entre la personne qui écrit et la personne qui lit, la personne qui parle et la personne qui écoute, c'est un test pour réussir à y parvenir, c'est que quand on lit un texte d'histoire des mathématiques, d'imaginer qu'on a un regard tourné vers l'avenir et non un regard tourné vers le passé, en essayant de se mettre à la place du mathématicien dont on lit l'œuvre, et d'imaginer qu'on est en train de découvrir quelque chose et qu'on est en train donc d'avancer dans les connaissances mathématiques. Donc, c'est ce qu'on peut rappeler, un regard prospectif. Donc d'imaginer qu'on est en train de découvrir la chose plutôt que d'essayer de comprendre comment les mathématiques actuelles sont dues à ces recherches passées. Voilà, donc ça c'était mes remarques préliminaires sur l'histoire des mathématiques en général. Alors dans mon résumé de deux lignes que j'ai donné à Aurélien, donc j'ai dit que j'allais faire un genre de panorama d'histoire des mathématiques. c'est vraiment ce sera vraiment très allusif et ce que je veux dire maintenant donc sera plus donc témoignera davantage de tout ce que je ne connais pas que des quelques rares choses que je connais en histoire des mathématiques. Donc si un jour vous vous souvenez de ce que je vous ai raconté aujourd'hui et que vous vous en sortez davantage sur les mathématiques, vous verrez donc surtout les choses qui manqueront, qui auront manqué dans ce petit panorama, que les choses qui figurent. Comment essayer donc de parler d'une manière panoramique des mathématiques. Alors, ces temps-ci, une chose que je trouve passionnante vraiment de manière globale sur les mathématiques, c'est donc je crois qu'en philosophie on dirait une relation dialectique, donc vous voyez une tension qui existe donc toujours entre le calcul et la théorie. Et donc, dans l'histoire des mathématiques, donc on découvre vraiment en permanence donc une tension donc entre des époques où on développe le calcul, on développe donc une capacité de calcul, une capacité de résolution mécanique des problèmes, et puis d'autres moments où, au contraire, donc on s'intéresse. Où on jette un regard théorique sur le calcul, on cherche à comprendre mais pourquoi est-ce que ce calcul fonctionne, quelles sont les bases théoriques de ce calcul, et donc on développe donc une théorie qui explique ce calcul et qui donc rend compte de ce calcul d'une manière synthétique. Et puis après, donc à un certain moment, eh bien il y a un nouveau coup de balancier. On se rend compte, par exemple, donc c'est ce que je vais dire dans quelques minutes, on se rend compte que la théorie qu'on a développée est beaucoup trop lourde pour répondre à certaines questions pratiques. On oublie la théorie, on lance un calcul, même si le calcul n'est pas assis sur des bases très solide, eh bien, il s'agit d'un calcul qui permet de résoudre des problèmes. Ce calcul fonctionne très bien, il se développe, il est de plus en plus il est de plus en plus solide, il donne de plus en plus souvent des résultats qui ne sont pas faux. Vous voyez bien, c'est ça le problème du calcul, c'est que si le calcul n'est pas donc sur des bases solides, ou si on ne sait pas, si on ne connaît pas les bases sur lesquelles fonder un calcul, eh bien, il peut donner des résultats qui sont faux. Et puis à un certain moment, donc ce calcul est tellement solide qu'on croit qu'il cache quelque chose de vrai, et donc on s'intéresse à découvrir les raisons pour lesquelles le calcul fonctionne. Et donc comme ça, les mathématiques, j'ai presque envie, donc en tout cas c'est mon sentiment ces jours-ci, qu'on peut presque donc définir les mathématiques comme étant une science qui se regarde elle-même fonctionner. C'est une science du calcul et une science donc de la théorie du calcul. C'est donc c'est-à-dire que l'objet des mathématiques, ce sont vraiment les mathématiques elles-mêmes. Elles ont toujours donc ce regard focalisé sur elles-mêmes, et heureusement, cela dit que les mathématiques sont aussi utilitaires et permettent aussi sont aussi au service d'une autre science, parce que sinon, où iraient les mathématiques? Alors je parlais, comment est-ce qu'on peut observer donc cette relation dialectique entre calcul et théorie? Eh bien donc les textes les plus anciens qu'on connaît des mathématiques, les fragments, les témoignages les plus anciens donc sont donc des sont des textes qui témoignent de calcul. Donc là je pense spécifiquement donc aux mathématiques babyloniennes. pas, mais aussi, tout aussi de manière équivalente, donc aux mathématiques chinoises. Et puis après, donc, on sait que. Alors là, je vais aussi rajouter donc, les mathématiques égyptiennes. Parce que, donc, alors pour quelle raison est-ce que je me suis souvenu que les mathématiques égyptiennes? Parce que, les calculs des mathématiques babyloniennes, des mathématiques égyptiennes ont des objets assez différents. C'est-à-dire qu'on sait que les mathématiques babyloniennes développaient l'arithmétique, l'algèbre, c'est-à-dire donc, vraiment quelque chose qui aujourd'hui donnerait lieu à un calcul symbolique. Alors que les mathématiques égyptiennes, on sait qu'elles avaient d'abord pour objet la géométrie. Par exemple, typiquement le calcul de surface. Et il me fallait absolument parler aussi de ces premiers travaux en géométrie pour dire que les premières théories qui se sont développées avaient pour objet la géométrie. Et donc là, je pense bien sûr aux mathématiques grecques. Et pour illustrer la différence entre calcul et théorie, je n'ai qu'à évoquer un exemple que vous connaissez tous, qui est le théorème de Pythagore. J'ai déjà parlé tout à l'heure. Les Babyloniens et les Chinois savaient et exploitaient le fait que si un triangle a pour côté A, B et C, et que donc on a la relation A2 plus B2 est égal à C2, alors l'angle sous-tendu par le côté C est droit. C'est ce qu'on appelle typiquement la réciproque du théorème de Pythagore. Mais ceci c'était simplement une donnée calculatoire très importante qui permet de construire des angles droits très facilement. Et c'est aussi un outil important quand on fait des calculs de surface. Alors, quel est l'apport théorique des Grecs vis-à-vis de cette formule? Eh bien, c'est que ce sont les Grecs qui ont compris sur quoi reposait cette vérité. Cette vérité qui est aussi une vérité expérimentale. D'accord, vous faites la chose, vous vous rendez compte que c'est vrai. Et qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce que les Grecs ont compris? Eh bien, ils ont compris que ce résultat était vrai parce que la somme des angles d'un triangle vaut deux angles droits. Et ça, c'est un résultat théorique. C'est-à-dire qu'on formule donc un raisonnement dans lequel on utilise pour seul fait essentiel, pour seul fait fondamental, le fait que la somme des angles d'un triangle vaut deux droits. Bon, là en même temps, je me rends compte en formulant mes résultats que je me comporte vraiment déjà un petit peu comme un historien des mathématiques professionnelles, c'est-à-dire que j'essaie de coller un certain langage, là j'essaie de coller au langage de Euclide, C'est-à-dire que chez les filles, le mot longueur n'apparaît pas. D'accord, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand on développe la géométrie au collège, donc on part d'un côté des segments, et qu'après, donc on dit qu'on mesure les segments, et donc ça permet d'avoir une mesure de longueur. Et ça, c'est quelque chose qui est inconnu des Grecs. Et de même manière, donc quand je parle de deux droits, plutôt que parler de l'angle plan, c'est parce que pour Euclide, l'angle plan n'a pas de sens, donc je parle toujours de deux angles droits. Et puis après, les Grecs sauront encore le décortiquer davantage et réussiront donc à comprendre que le vrai résultat à la racine du théorème de Pythagore et à la racine aussi de ce théorème sur la somme d'angles d'un triangle, c'est donc ce qu'on appelle le postulat d'Euclide. Voilà, donc c'est dû au fait suivant. Donc ce qu'on appelle le postulat d'Euclide. C'est que donc, si... Et donc, si on est dans cette situation-là, d'accord, avec l'angle que j'ai dessiné ici, qui est plus petit qu'un angle droit, c'est-à-dire que donc si une droite est inclinée donc en un certain point D vers une autre droite, les deux droites vont se rencontrer. Et ce fait-là, donc, c'est le fait essentiel de notre de la géométrie euclidienne. Donc ici je dessine entrée comme ça. Le fait que donc juste de l'observation donc de l'angle D ici, eh bien donc on peut déduire que deux droites vont se rencontrer. Donc ce fait qui est tellement évident pour nous tous qu'il est très difficile pour nous de le remettre en question. Et il y a donc parmi nous ici donc quelques personnes qui ont suivi mon cours sur la géométrie non euclidienne qui peuvent témoigner de la difficulté qu'on a à faire de la géométrie en l'absence de ce postulat, eh bien donc c'est ce postulat-là qui est en fait à la base de toute la géométrie. Alors en quoi est-ce que ce fait théorique est encore plus impressionnant, est encore plus passionnant, c'est que jusqu'à aujourd'hui, et on ne sait pas, peut-être que demain ce sera différent, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé de fait plus élémentaire, de fait plus simple, qu'on puisse mettre à la base de la géométrie euclidienne. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé d'axiome, ici je dis postulat, parce que c'est l'axiome, on appelle ça postulat, mais postulat et axiome sont grossièrement des synonymes. Donc, on n'a pas trouvé donc de principe plus simple que celui-là, il est quand même un petit peu compliqué, pour fonder la géométrie. Donc tout cela pour vous. Donc je vais être ainsi dans le détail pour vous expliquer ce que ça veut dire faire une théorie. Faire une théorie, c'est comprendre le pourquoi des calculs. D'accord ? Donc écrire comme ça des équations, c'est simplement faire du calcul qu'on peut après donc exploiter, qui permet de résoudre beaucoup de problèmes concrets. Et ici, ce dont je vous parle ici, c'est faire de la théorie. Donc vraiment, comprendre pourquoi les calculs fonctionnent, sur quoi les calculs sont-ils fondés. Donc vous voyez, je vais rapidement vous faire un dessin de géométrie
non euclidienne, donc même situation, mais en géométrie non euclidienne, eh bien, ce qui peut avoir lieu, c'est ceci. D'accord ? Il se peut qu'une droite commence à se rapprocher de l'autre, et puis au bout d'un certain temps, décide de s'éloigner. Et donc poser ce, on peut donc fonder une géométrie exactement donc sur l'existence de cette situation, estimer que cette situation peut avoir lieu, et cela fait une géométrie passionnante, ce qu'on appelle la géométrie non euclidienne. Alors, je vais donc maintenant donc passer sur quelques siècles d'histoire, donc après les mathématiques grecques. Donc en particulier, donc je ne vais pas parler du tout des mathématiques indiennes, qui en particulier donc ont permis donc d'aller beaucoup progresser dans le calcul, en particulier donc de développer ce qu'on appelle donc l'arithmétique positionnelle, c'est-à-dire donc d'écrire des nombres en estimant que c'est que la position des chiffres donc indique s'il s'agit donc d'unités, de dizaines, de centaines, de milliers, etc. Je vais passer sur les mathématiques arabes qui d'abord, donc, puisque je parlais de mathématiques indiennes, donc ont permis aux mathématiques indiennes donc d'arriver jusqu'en Occident. Et puis donc je ne vais pas parler en particulier donc, de quelque chose qui m'intéresse actuellement beaucoup, qui est donc l'astronomie développée par les Arabes. Donc le fait qu'ils ont beaucoup fait progresser donc l'étude du ciel, l'étude du mouvement des étoiles. Je ne vais pas parler du tout non plus donc des mathématiques médiévales qui ont existé en Europe. Et donc je vais aussitôt donc parler encore de mathématiques européennes. Donc ça c'est aussi dire mon manque de culture pour les autres civilisations. Et donc je vais parler de l'épisode suivant. Donc les mathématiques grecques ont aussi donc développé tout ce qu'il fallait pour calculer des surfaces et des volumes. Donc les choses les plus impressionnantes, c'est en particulier que les Grecs savaient calculer donc la surface de ce qu'on appelle donc la surface qui est sous une parabole. D'accord ? Donc vous avez je me permets de faire un dessin, est-ce que je vais faire un dessin d'époque ou un dessin d'aujourd'hui? Je vais faire un dessin d'époque. Là donc vous avez une parabole. D'accord. Et puis donc vous avez donc ce qu'on appelle donc un segment de parabole. Donc les Grecs savaient calculer de manière parfaitement rigoureuse donc la surface d'un segment de parabole. Donc en gros, vous me direz simplement, ils savaient donc intégrer la fonction carré. C'est ça que vous allez me répondre. Eh bien, n'empêche que c'est un résultat qui est passionnant. Ils savaient calculer la surface d'un cercle aussi. Et ils savaient aussi faire les résultats correspondants en dimension 3. Donc ils savaient calculer des segments de paraboloïdes, ils savaient calculer des volumes de cylindres ou le volume du tétraèdre. Alors le problème c'est que ces démonstrations étaient toutes très compliquées. Pour chacun des volumes qui étaient calculés, il fallait donc développer une
une théorie particulière qui étudie la géométrie de l'objet en question, qui et puis après, donc, comme on dit donc, dans le langage technique de cette époque-là, il s'agissait de raisonnements apagogiques, c'est-à-dire des raisonnements par l'absurde. C'est-à-dire que tous ces calculs de surface se faisaient de la manière suivante. Donc on a d'abord une idée du résultat. D'abord, on a une idée du résultat, donc combien vaut donc, la surface de ce segment. Puis après, on suppose que le résultat qu'on espère donc, est faux. On suppose donc, que le segment de parabole a une surface qui est plus petite que ce dont on pense qu'il est juste, et on aboutit à une contradiction. Après, on pense au contraire qu'il est plus grand, et on aboutit à une contradiction. Et donc aboutit à cette double contradiction au cas où donc la surface de la parabole est plus petite que ce qu'on espère et est plus grande que ce qu'on espère, et bien on en conclut donc par une application du tiers exclu que et bien en fait effectivement la surface de la parabole est égale au résultat recherché. Et peut-être que donc si moi vous avez compris ce que je viens de vous dire oralement, et aussi si vous ne l'avez pas compris, et bien dans les deux cas, vous en conclurez quand même que c'est assez compliqué et assez alambiqué. Il y a un très beau petit écrit d'un mathématicien italien qui s'appelle Nardi, dans lequel donc on peut dire que très certainement Archimède connaissait les véritables raisons de son calcul et qu'il les cachait soigneusement pour lui seul cette capacité de calculer des surfaces et des volumes. Et donc, que font donc les mathématiciens du XVIIe siècle? Ils développent donc une nouvelle théorie. Ils développent donc quelque chose qu'ils appellent une théorie, hein, qu'ils appellent donc la théorie des invisibles. Mais cette théorie des indivisibles n'est pas une théorie. Je fais une théorie, oui, d'accord. C'est exactement donc une théorie comme. Dès qu'on fait un calcul, on peut aussi appeler ça une théorie si on veut. Mais de fait, la théorie des indivisibles est une méthode de calcul qui permet directement de donner les bons résultats. Donc, cette théorie des indivisibles donc, propose une méthode de calcul des surfaces et des volumes qui ne procèdent pas donc, par raisonnement apagogique. Et en quoi est-ce que ça consiste? Bien, ça consiste à dire que donc ça consiste à dire ben voilà qu'une surface, bien, une surface n'est que une infinité de lignes. Voilà, je veux dire voilà donc une surface c'est une infinité de lignes. Donc je fais la somme des lignes et j'obtiens ma surface. De même manière, donc la théorie de Gibbs dira qu'un volume, c'est simplement donc une infinité de surfaces. On fait la somme de cette infinité de surfaces et on calcule un volume. Et donc, le mot indivisible, c'est simplement. Les indivisibles ici, ce sont simplement donc les lignes qui composent la surface ou les surfaces qui composent le volume. C'est un petit peu donc comme des atomes de la surface ou des atomes du volume. Et cette théorie des indivisibles, alors c'est assez passionnant de s'intéresser à ce chapitre-là de l'histoire des mathématiques, parce que, eh bien, ce calcul donne très souvent des résultats carrément faux. D'accord ? Donc vous essayez d'appliquer cette méthode de calcul à des exemples que vous connaissez bien et puis vous trouvez n'importe quoi, vous trouvez un résultat parfaitement faux. Et puis donc comme ça, donc les mathématiciens disent oui, vous avez bien appliqué le calcul tel que je l'expliquais jusqu'à maintenant, mais j'avais oublié de préciser que. Ils rajoutent donc une nouvelle règle qu'il aurait fallu suivre dans cette méthode de calcul. Et donc ainsi se développe peu à peu un calcul, donc avec comme je viens de vous le dire, avec beaucoup d'accidents. Et donc au bout d'un certain temps, donc on aboutit jusqu'à un calcul, donc qu'on va appeler donc le calcul infinitésimal, donc en particulier donc sous la donc en particulier donc sous l'influence donc sous le comment que je dis ça donc grâce à Leibniz et à Newton. Ma gestion du tableau est catastrophique. Donc, ça va être visible.
Voilà, donc je calcule la petite lumière.
Mais donc ce calcul infinitésimal, eh bien donc il prendra longtemps pour trouver sa théorie. Et donc au XVIIIe siècle, donc tout le XVIIIe siècle sera donc particulièrement marqué donc par le développement de l'analyse pour trouver donc une base théorique au calcul infinitésimal. Mais donc on estime qu'une base rigoureuse de l'analyse n'a été trouvée qu'au XIXe siècle. Donc voilà. Alors on peut parallèlement donc trouver donc la même relation dialectique entre calcul et théorie en algèbre. Donc on peut par exemple donc observer les méthodes de calcul qui sont développées pour résoudre les équations du deuxième, troisième, quatrième degré. Donc comme les méthodes de calcul, de plus en plus complexes, en particulier donc comme vous l'avez certainement appris à un certain moment donc, de votre formation, donc en introduisant de nouveaux nombres, qu'on appelle donc des nombres imaginaires, et donc voire seulement très tardivement, c'est-à-dire au XIXe siècle, donc une base théorique qui rend compte de ces calculs. Donc pendant trois siècles, les mathématiciens savaient calculer, savaient trouver les solutions des équations, mais ils ne savaient pas pourquoi donc cette résolution d'équations fonctionnait. Et c'est seulement donc au XIXe siècle qu'on a trouvé donc une théorie qui permet de rendre compte de tous ces calculs. Voilà. Et donc, c'est ainsi que très rapidement, je me retrouve donc au siècle duquel je vais vous parler avec plus de précision. Oui. Voilà, donc de ce paquet, vous prenez à chaque fois deux feuilles. Là, donc je vais donc maintenant vous parler d'une étape importante dans l'élaboration donc de la rigueur en analyse. Et la personne donc à laquelle donc on attribue donc ce tournant de la rigueur en analyse, C'est donc un mathématicien qu'on appelle Cauchy. Je ne connais pas les dates de naissance et de mort de Cauchy, désolé. En tout cas, donc, Cauchy donc, a été professeur à l'école polytechnique. Et donc, encore aujourd'hui, donc, tout professeur à l'école polytechnique est tenu de rédiger son cours. Et donc, nous avons donc. Donc, il y a donc. Donc, Cauchy a rédigé un cours, donc. Qui s'appelle donc. Cours d'analyse, mais qui est souvent aussi connu simplement par son sous-titre qui est analyse algébrique. De 1821. Et donc, en quoi est-ce que ce cours est fameux? Il est fameux en particulier parce qu'il contient pour la première fois une définition de la continuité. Il contient aussi donc, ce fameux critère de Cauchy que vous connaissez certainement, donc pour le critère de convergence. Il contient aussi pour la première fois une démonstration du théorème des valeurs intermédiaires. Parce que, donc, vous voyez le théorème des valeurs intermédiaires qui dit la chose suivante. Donc, vous avez vous considérez une fonction. Et donc là, je trace juste l'axe des abscisses. Puis vous avez donc une fonction qui prend des valeurs positives et des valeurs négatives. Et donc, le fait qu'alors la fonction s'annule aussi a été jusqu'à Cauchy et Bolzano, parce que Bolzano a fait la même observation que Cauchy, a été donc jusqu'à Cauchy et Bolzano un fait, comment dire, qui est dans la nature même d'une fonction. C'est un fait géométrique. Il n'est pas concevable que. Il n'est pas concevable, disons, qu'une particule ait une trajectoire je prétends que mon axe n'est pas l'axe des abscisses, mais l'axe x égale x0. C'est bien imaginer qu'une particule vole à une altitude qui soit supérieure à l'altitude x0, vole à un autre, donc on attend. Donc, voyons qu'on a un temps ultérieur, donc à une altitude qui soit inférieure à x0, sans qu'elle ait pris aussi un certain, sans qu'elle soit passée à un certain moment par l'altitude x0. D'accord ? Le concept de fonction même était un concept physique, c'était une manière mathématique de modéliser donc, la trajectoire d'une particule, et donc le terme de valeur intermédiaire était un. Peut-être une simple conséquence de la conception même de fonction. Et donc on concevait ça comme un fait géométrique. Et donc il a fallu Cauchy et il a fallu Bolzano pour revenir, si vous voulez, sur un fait que ici pour m'amuser, pour rester cohérent avec ce que j'ai raconté tout à l'heure. Je vais appeler donc un fait calculatoire, quelque chose qui est de l'ordre du calcul. Fonction prend des valeurs positives, fonction prend des valeurs négatives, alors fonction s'annule. Essayer d'en faire une théorie, c'est-à-dire de découvrir sur quoi donc est basée donc cette observation. Et donc Cauchy et Bolzano sont les premiers qui, indépendamment, donc ont compris que derrière, que à l'intérieur de cette idée de théorème de valeur intermédiaire, donc il était caché l'hypothèse de continuité. Et ici, donc, ce qui est important, c'est que cette hypothèse de continuité, avant Cauchy et Bolzano, elle n'existait même pas. C'est-à-dire que l'idée même de continuité n'avait pas été formulée avant ces deux mathématiciens. Avec à nouveau toutes les précautions d'usage quand on dit c'est le premier qui, c'est le premier que. Mais donc, autant qu'on le sache. Alors, voilà, donc ceci pour présenter Cauchy. Et donc,
la continuité était perçue de manière géométrique, c'est ça ? Comme quelque chose de
alors,
continu.
Non, le mot Le mot continu est un mot qui existe. C'est un mot qui existait avant Cauchy. Mais c'est un mot qui avait des sens. Qui avait des sens assez. Assez variables. Donc on peut.
Mais ce théorème de la valeur intermédiaire était perçu. Les gens le croyaient comme quelque chose d'intuitif.
C'est-à-dire que moi, je ne suis pas persuadé que quelqu'un l'ait appelé théorème. C'était simple, c'est simplement qu'auparavant, on avait très bien vu, on utilisait sans aucun problème cette observation que
comme quelque chose de naturel.
Comme quelque chose de naturel. Mmh. Donc le mot continu, quand on le cherche dans les. Donc c'est, le mot continu, de toute manière, est un mot passionnant. C'est un des mots, disons, les plus importants de. C'est un des mots les plus importants des mathématiques. Et donc, on. Raconter l'histoire de ce mot, c'est quelque chose qui nous fait remonter très très loin dans l'histoire des mathématiques. Donc quand je donne mon cours d'histoire des mathématiques en M2, je fais remonter donc ce mot jusqu'au problème de Parménide, donc jusqu'à l'invention de la métaphysique. C'est un mot donc qui a été utilisé pour les fonctions, maintenant spécifiquement pour les fonctions, d'une manière donc très très variée au cours du temps. Donc, Cauchy n'est pas le premier à parler de fonctions continues, mais c'est le premier à donner au mot fonction continue le sens que nous lui donnons encore aujourd'hui. Alors donc voilà, donc je vous ai distribué donc. Quelques extraits, donc je vous distribue donc un extrait donc du cours d'analyse de Cauchy, et donc nous allons lire ensemble. Je vais réécrire donc simplement au tableau donc sous une forme moderne donc un extrait donc de ce cours d'analyse. Donc je suis page 130 et je suis juste en dessous de la formule 7, donc là où il y a écrit la série. Alors donc je vous préviens tout de suite, donc cette lettre ici, donc que vous connaissez tous, donc peut-être que vous ne savez pas tous qu'en fait vous voyez, quand on la dessine comme ça, qu'est-ce qui apparaît? Eh bien c'est la lettre E. D'accord, ici je dessine une lettre E. Maintenant, je la continue. D'accord, je la fais passer par ici. Et puis, parfois, dans la vieille typographie, peut-être ici aussi, regardez, en fait, il y a un empattement. D'accord, ici, il y a donc un empattement. Il y a un petit trait qu'on fait, regardez dans le texte. Eh bien, c'est parce que c'est la lettre T. D'accord, ceci, ce symbole, c'est juste une manière particulièrement maniérée de dire, d'écrire « et ». Et c'est pour ça qu'en particulier, quand dans le texte vous voyez plusieurs fois donc écrit donc et c'est, eh bien c'est juste pour dire etc. D'accord, ça c'est juste etc. Donc très souvent dans les vieux textes,
ça veut dire suite. Ça veut dire une suite en fait.
Non, c'est une série.
Ah, c'est une somme.
Donc voilà, qu'est-ce que. Et encore une autre chose que je trouve divertissante. Donc ici, donc ce texte est un texte donc de. C'est un cours d'école polytechnique. L'école polytechnique donc relève du royaume. C'est donc l'imprimerie royale qui a imprimé ce texte. Comment est-ce qu'on reconnaît quelque chose qui est imprimé par l'imprimerie royale, un texte considéré comme officiel? C'est que la lettre L a une petite barre. Donc regardez, donc c'est une nouvelle impression que j'ai ici, mais. Si vous regardez de près donc la lettre L, vous verrez qu'à gauche du milieu, il y a une petite barre. On la voit apparaître un petit peu. C'est un privilège d'imprimer le royal d'avoir une lettre L avec une petite barre, et donc aucun autre imprimeur n'avait le droit de faire des L comme ça. Voilà donc tout ça donc. Voilà, donc ça c'est. Petite joie de l'historien, de prendre compte de ces choses. Donc, la série U0, U1, U2, U3, etc. étant supposée convergente. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que la somme des UK, voilà. Aujourd'hui, on dirait dans le code mathématique, ceci existe. D'accord? La somme de cette série. Si l'on désigne par somme par S. Et par Sn, la somme de ces n premiers termes. Donc on trouvera donc S égale la somme pour k allant de 0 à n moins 20 des k plus la somme pour k allant de n à l'infini des k. Donc ici, donc vous voyez écrit, on trouvera S égale U0 plus U1 plus U2 plus point de suspension plus un moins 1 plus un plus un plus 1 plus etc. égale donc Sn plus un plus un plus 1 plus etc. et par suite donc S moins Sn égale un plus 1 plus etc. De cette dernière équation, il résulte que les quantités un plus 1, un plus 2, etc. formeront donc une nouvelle série convergente dont la somme sera équivalente à S moins Sn. Si l'on représente cette même somme par Rn, on aura Sn, donc on aura S égale Sn plus Rn. Et Rn sera ce qu'on appelle le reste de la série 1 à partir du n-ième terme. Voilà, donc jusqu'ici, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. D'accord? Simplement, donc voilà, donc si une série existe, les restes existent aussi. Pour n'importe quel. Les restes de n'importe quel. À partir de n'importe quel terme existent aussi. Alors maintenant, donc, on rajoute une certaine complexité, donc on estime que les UK sont des fonctions. Lorsque les termes de la série 1 renfermant une même variable x, donc les termes UK sont tous des fonctions d'une variable x, cette série est convergente et ces différents termes fonctions continues de x dont le voisinage d'une valeur particulière attribuée à cette variable, alors qu'est-ce qui se passe? Donc si les UK sont des fonctions continues, donc au voisinage d'une valeur x0 de la variable x, eh bien, qu'est-ce qu'il arrive? Il arrive donc que Sn, Rn et S sont encore trois fonctions de la variable x. Voilà, dont la première est évidemment continue par rapport à x dans le voisinage de valeurs particulières dont il s'agit. D'accord? Donc si les UK sont des fonctions continues, il y a évidemment Sn, qui est donc une somme finie de fonctions continues, est encore continue. Cela posé, considérons les accroissements que reçoivent ces trois fonctions lorsqu'on fait croître x d'une quantité infiniment petite alpha. Donc ici, on se pose la question, mais qu'est-ce que ça veut dire une quantité infiniment petite? D'accord? S'il y a des mots que les enseignants mathématiques s'interdisent d'employer, eh bien, c'est bien le terme d'infiniment petit. D'accord? L'infiniment petit fait peur. On ne sait pas donc comment. On ne sait pas comment, en tout cas aujourd'hui, donc on croit ne pas savoir parler rigoureusement de l'infiniment petit, donc on s'interdit cette expression. Alors qu'est-ce que c'est? Donc Cauchy est celui qui a donc inauguré la rigueur en analyse, donc en donnant pour la première fois, peut-être que ce n'est pas la première fois, certainement encore péché là, donc en donnant pour la première fois donc une définition de ce que c'est qu'un infiniment petit. Alors cette définition, c'est un infiniment petit, et bien donc c'est une suite qui tend vers zéro. C'est aussi simple que cela. Un infiniment petit est une suite qui tend vers zéro. Donc alpha, ici, donc c'est une, il faut considérer donc alpha comme quelque chose qui prend donc successivement des valeurs de plus en plus petites et qui sont aussi donc des successives, donc qui sont aussi petites que l'on veut. Et puis après donc c'est après que les choses se corsent, parce que voilà, donc, c'est après donc il y a donc un certain nombre de questions qui se posent et qui font que qu'on n'enseigne pas l'analyse précisément comme l'a fait Cauchy et qu'on s'interdit le terme d'infiniment petit. Voilà. L'accroissement de Sn sera, pour toutes les valeurs possibles de n, une quantité infiniment petite. Donc ici, Cauchy utilise simplement la définition de continu, parce que pour lui, continu, une fonction est continue au voisinage, donc voilà. En fait, Cauchy définit donc la continuité comme étant donc une fonction donc qui, lorsque donc on accroît la variable d'un infiniment petit, et bien la fonction elle-même aussi donc s'accroît d'un infiniment petit. C'est ça donc la définition qui est à nouveau disons-le ainsi en prenant des pincettes, qui est parfaitement rigoureuse pour quelqu'un qui a parfaitement compris Cauchy. Malheureusement, donc ce n'est pas si facile comme ça de comprendre parfaitement Cauchy. Je suis justement en train d'essayer donc d'écrire un texte sur spécifiquement cette question-là. Donc comment rendre compte parfaitement de la définition que je viens de dire oralement, et ce n'est pas si facile que ça. Voilà, l'accroissement de Sn sera pour toutes les valeurs possibles de n une quantité infiniment petite. Maintenant arrive donc la phrase spécieuse, la phrase problématique. Et l'accroissement de Rn deviendra insensible en même temps que Rn. C'est d'attribuer à n une valeur très considérable. Alors qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que le reste, puisque la série est convergente, eh bien le reste devient de plus en plus petit. Alors si le reste devient de plus en plus petit, évidemment que l'accroissement du reste, qui est simplement donc l'accroissement est simplement donc une différence, c'est Rn de la variable plus quelque chose, c'est Rn de x plus alpha moins Rn de x, et bien donc c'est une différence de deux choses qui devient infiniment petite, et donc cette différence elle-même devient aussi infiniment petite. Par suite, l'accroissement de la fonction s ne pourra être qu'une quantité infiniment petite. Voilà, donc je répète, donc la série étant convergente, voilà donc le reste Rn donc devient infiniment petit. Disons est un infiniment petit. Et donc là, je vais. Vous voyez, donc là, je me place dans un dialogue avec Cauchy. Donc là, je vais juste reprendre ce qu'écrit Cauchy. Et je ne vais pas me dire est-ce qu'il est en train de raconter des bêtises ou non. Donc là, je dis simplement donc, c'est Cauchy qui parle. Voilà donc l'accroissement. RN est aussi infiniment petit. Voilà. Et qu'est-ce que j'en conclue? J'en conclue. Donc, j'en conclue donc que donc si j'attribue un accroissement infiniment petit à la variable x, eh bien f, qui est donc la somme de Fn et de Rn, eh bien subit aussi l'accroissement infiniment petit, donc par définition f est continu. Voilà, donc Cauchy, pour mettre les points sur les i, maintenant va formuler un théorème qui rend compte du raisonnement qu'on vient d'obtenir. De cette remarque, on déduit immédiatement la proposition suivante. Lorsque les différents termes de la série, donc la série, donc c'est la série des UK, donc ce sont les UK, sont des fonctions d'une même variable x, continue par rapport à cette variable, dans le voisinage d'une valeur particulière pour laquelle la série est convergente, la somme S de la série est aussi, dans le voisinage de cette valeur particulière, fonction continue de x. Et donc, voilà, donc, si vous voulez, Cauchy ici donc, dit un théorème qui est que donc la somme d'une série de fonctions continues est continue. Alors, très rapidement, en 1826, un mathématicien dont vous avez certainement déjà entendu le nom, parce qu'on lui attribue un critère, qui est le critère d'Abel, donc Abel, s'intéresse justement à des séries, s'intéresse à la série binomiale et écrit dans une note en bas de page que M. Cauchy, dans son cours d'analyse, a énoncé le théorème suivant il semble que ce théorème de M. Cauchy donc accepte des exceptions. Donc il y aurait donc des exceptions à ce théorème. Et donc l'exception, c'est l'exception suivante, c'est donc la somme, donc la série donc des sinus kx sur k.
C'est une manière polie de dire qu'il était faux, c'est ça?
Oui, c'est ça, tout à fait. Tout à fait, mais... Donc vous connaissez donc cette série, je pense, parce qu'il s'agit d'une série qu'on aime à calculer. C'est une série qui est extrêmement importante pour l'histoire de l'analyse. Voilà, donc qu'est-ce qu'on sait au sujet de cette série? Eh bien, donc une chose qu'on sait, c'est qu'en particulier, cette série converge, et elle converge même pour n'importe quelle valeur de x. D'accord ? Donc cette série converge pour toute valeur de x. Et en particulier, on sait calculer les limites, par exemple, pour x égale à 0, parce qu'on sait que pour x égale à 0, tous les termes sont nuls. Et donc, on sait que lorsque x égale à 0, eh bien, donc, cette série est de somme nulle. Bien avant Cauchy, donc déjà, je crois que c'est Euler le premier qui a calculé la somme de cette série, donc on s'est rendu compte que la somme de cette série est discontinue. Donc, j'ai un peu peur parce que je ne me souviens pas exactement du... J'ai un faire du réducteur parce que je ne me souviens absolument pas. Donc je sais que c'est une fonction qui est à.
Okay. Le développement de la fonction.
De là ?
Ça doit être le développement de la fonction.
Je
ne
comprends pas la fin de ce qui là.
Pour la. La
je crois que. Donc si je me souviens bien, c'est ça. Cette série est donc une fonction qui est comme ça, donc affine par morceau. Et donc en particulier, Abel donc dit, ben, en fait, il parle pas de cette série-là. J'ai écrit cette série-là au tableau parce que le deuxième texte que nous allons lire de Cauchy s'intéresse à cette fonction-ci. Abel il parle de cette série-là. Donc il translate la série de, la série considérée de pi. Vous voyez bien qu'en translatant x de pi, eh bien, c'est comme si on sortait un signe devant le signe. Et, voilà. Alors, ce qui est assez intéressant ici, c'est que cette observation d'Abel donc, date de 1826, et il n'y a aucune réaction de Cauchy. Cauchy ne paraît pas plus inquiet que ça pour son théorème. Alors néanmoins, donc 35 ans plus tard, en fait, disons 32 ans plus tard, Cauchy va revenir sur son théorème. Donc il va publier une note au compte-rendu en 1853 où il répond à Abel. Alors il va dire voilà, qu'effectivement, donc son théorème subit des exceptions, et il va expliquer donc où il a péché. Il va expliquer donc où il a été imprécis. Alors ce que je trouve passionnant, c'est que de fait, nous allons donc lire une deuxième fois une démonstration de Cauchy, et donc cette deuxième démonstration de Cauchy sera de fait exactement la même, juste un peu plus précise. Donc il va donc fournir à nouveau la même démonstration, mais ce qu'il va changer, c'est l'énoncé du théorème. Donc ici ce qui est intéressant, c'est que cette démonstration, on peut se poser la question, quel sens elle avait en 1821, quel sens elle a en 1853. Donc pour Cauchy prétend qu'elle a le même sens en 1821-1853, et que par contre, donc, il n'admet une faute que pour l'énoncé du théorème. Et voilà.
J'ai encore distribué des feuilles. Ah oui. Donc le début est déjà, donc là vous prenez à chaque fois une feuille, mais la note de Cauchy 1853, vous en avez déjà donc le début donc sur la deuxième feuille que je vous ai distribuée tout à l'heure. Et donc la fin de cette note, c'est ça que je suis en train de vous distribuer. Voilà, donc nous sommes en 1853. Donc comme vous savez peut-être, les comptes rendus, donc tout le monde les appelle les CRAS, compte rendu hebdomadaire de l'Académie des sciences, de 1853.
Donc je vais, donc avant la pause, je vais donc faire cette lecture et puis nous ferons donc la pause à l'issue de cette lecture et nous ferons donc le commentaire après la pause. Parce que si je calcule bien, on n'est pas loin de la pause. Voilà. En établissant dans mon analyse algébrique les règles générales relatives à la convergence des séries, j'ai de plus énoncé le théorème suivant. Et donc vous voyez donc à nouveau donc l'énoncé que nous avons eu tout à l'heure. Lorsque les différents termes de la série U0, U1, U2, point de suspension, UN, UN plus 1, point de suspension, sont des fonctions d'une même variable X, continues par rapport à cette variable, dans le voisinage d'une valeur particulière pour laquelle la série est convergente, la somme S de la série est aussi, dans le voisinage de cette valeur particulière, fonction continue de X. Comme le remarquaient messieurs Bouquet et Briot, okay, ils ne citent pas Abel, je ne sais pas si c'était au courant de la, donc de l'article d'Abel qui était paru au journal de Crène, et donc là ils parlent de deux autres personnes. Comme le remarquaient messieurs Bouquet et Briot, ce théorème se vérifie. Non, j'ai dit une bêtise. Bouquet et Briot ici donc développent disent que ce théorème est vrai si on ajoute une hypothèse au théorème. Comme le remarquaient messieurs Bouquet et Briot, ce théorème se vérifie pour les séries ordonnées suivant les puissances ascendantes d'une variable. Donc là, il dit ce théorème est vrai donc pour les séries entières. Mais pour d'autres séries, il ne saurait être admis sans restriction. Ainsi, par exemple, il est bien vrai que la série sinus x, sinus 2x sur 2, sinus 3x sur 3, point de suspension, toujours convergente pour des valeurs réelles de x, a pour somme une fonction de x qui reste continue tandis que x, supposé réel, varie dans le voisinage d'une valeur distincte d'un multiple plus ou moins 2nπ de la circonférence de π, et qui se réduit en particulier à π moins x sur 2 entre les limites x égale à 0, x égale à 2π. Donc j'aurais dû lire l'article, parce que là donc, j'ai la solution. Donc ceci, donc ça vaut. Donc c'est égal à π moins x sur 2, donc si x en particulier donc, appartient donc à l'intervalle 0 de pi. Mais à ces limites même, donc aux limites 0 et 2 pi, la somme S de la série devient discontinue. Et cette somme, considérée comme fonction de la variable réelle x, acquiert à la place de la valeur plus pi sur 2 ou moins pi sur 2 donnée par la formule que je viens d'écrire au tableau, donc s égale à pi moins x sur 2, la valeur singulière s égale à 0 qui reparaît encore quand on suppose x égale à plus ou moins 2nπ. N étant un nombre entier quelconque. Maintenant, donc, le mea culpa, qui est un mea culpa, disons, quand même très mitigé. Au reste, il est facile de voir comment on doit modifier l'énoncé du théorème pour qu'il n'y ait plus lieu à aucune exception. Donc là, le mot exception, je pense, répond quand même à Abel, puisque c'est le même mot qu'Abel a utilisé, même si donc, l'article d'Abel est en allemand. C'est ce que je vais expliquer en peu de mots. D'après la définition proposée dans mon analyse algébrique, et généralement adoptée aujourd'hui, une fonction u de la variable x sera continue entre deux limites données de x, si cette fonction admettant pour chaque valeur intermédiaire de x une valeur unique et finie, un accroissement infiniment petit attribué à la variable produit toujours
entre les limites dont il s'agit, un accroissement infiniment petit de la fonction elle-même. Cela posé, concevons que la série 1 reste convergente et que ces divers termes soient fonction continue d'une variable x pour toutes les valeurs de x renfermées entre certaines limites. Là, donc, il est en train de recommencer la même démonstration, donc je n'ai pas besoin de le réécrire, je vais juste suivre au tableau ce que j'ai écrit. Soit alors, donc, S, la somme de la série, Sn, la somme de ces n premiers termes, et Rn égale S moins Sn, égale un plus 1 plus point de suspension, le reste de la série indéfiniment prolongée à partir du terme général un. Donc, si l'on nomme n' à un nombre entier supérieur à n, le reste Rn ne sera autre chose que la limite vers laquelle convergera, pour des valeurs croissantes de n, la différence Sn' moins Sn. Donc, il dit ici donc Rn, c'est la limite, Rn est la limite de Sn prime moins Sn pour n prime qui tend à l'infini. Concevons maintenant qu'en attribuant à n une valeur suffisamment grande, on puisse rendre pour toutes les valeurs de n comprises entre les limites données. Les limites données, donc là, c'est en rapport avec la définition de fonction continue. Le module de l'expression 3, donc Sn' moins Sn, inférieur à un nombre epsilon aussi petit que l'on voudra. Comme il s'agit comme de choses nouvelles, je peux le dire ici. Là, donc ce qu'il écrit, c'est que nous supposons donc que si n est suffisamment grand, donc tous les Sn' moins Sn en valeur absolue, donc avec n' supérieur à n quelconque, il y a donc soit inférieur à epsilon. Comme un accroissement attribué à x pourra encore être supposé assez rapproché de 0 pour que l'accroissement correspondant de Sn offre un module inférieur à un nombre aussi petit que l'on voudra, il est clair qu'il suffira d'attribuer au nombre n une valeur infiniment grande et à l'accroissement de x une valeur infiniment petite pour démontrer, entre les limites données, la continuité de la fonction S égale Sn plus Rn. Mais cette démonstration suppose évidemment que l'expression 3 remplit la condition ci-dessus énoncée, c'est-à-dire que cette expression devient infiniment petite pour une valeur infiniment grande attribuée au nombre entier n. D'ailleurs, si cette condition est remplie, la série 1 sera évidemment convergente. En conséquence, on peut énoncer le théorème suivant. Donc, à nouveau, donc, un énoncé de théorème. Disons-le, si les différents termes de la série U0, U1, U2, point de suspension, UN, UN plus 1, point de suspension, sont des fonctions de la variable réelle X, continue par rapport à cette variable entre des limites données, si d'ailleurs la somme
un plus un plus un plus point de suspension plus un prime moins un devient toujours infiniment petite pour des valeurs infiniment grandes des nombres entiers n et n prime supérieur à n, la série 1 sera convergente et la somme s de la série 1 sera entre les limites données fonction continue de la variable. Voilà, donc ici, donc suspense. Alors peut-être que vous avez déjà compris qu'est-ce qui a changé, quelle est la différence entre la première et la deuxième formulation, qu'est-ce qui s'est passé ici dans cette précision à 30 ans d'intervalle. En tout cas, donc c'est après la pause qu'on va discuter plus précisément pour voir donc où se situe cette différence.